tous. Voilà, je suis très content d'être au milieu de vous. Donc moi, c'est pas la première fois que je viens. Voilà, certains m'ont peut-être pas vu, mais je suis déjà venu quelques fois. Lorsque vous aviez ici comme stagiaire Jérémy Gavroy, mon fils, donc j'étais venu à l'occasion d'une réunion de jeunesse, puis aussi je crois un culte, et donc on avait partagé ensemble la parole de Dieu. Je vous remercie aussi de la confiance que vous me faites, je suis très content au milieu de vous, je suis retraité, toujours actif, et comme disait un vieux pasteur, dans l'armée de l'Éternel, il n'y a pas d'anciens combattants, c'est jusqu'à la mort, il n'y a pas de médaille, mais il y a une couronne qu'on déposera aux pieds du Seigneur. Amen. Vous me faites du bien par vos louanges. Ça fait du bien de vous entendre. Ça fait du bien d'entendre les louanges, la reconnaissance des cœurs envers le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. C'est un juste retour. On ne fait rien d'exceptionnel si ce n'est que de rendre à Dieu la gloire qui lui revient. Amen. Heureux aussi de partager avec vous donc la parole de Dieu. Je ne suis pas venu avec un message extra spirituel. Je suis venu avec la simplicité de la foi dans mon cœur et puis aussi celle d'un serviteur qui dit « Parle, je suis à tes pieds, je t'écoute. » De manière à pouvoir apporter non pas ce que je pense, parce que ce que je pense, ce n'est pas très important, c'est ce que Dieu pense, qui est important pour nous. Parmi les milliers de voix qui s'élèvent dans le monde, une seule retentira toujours, c'est celle de Dieu. Amen. Il a commencé, il terminera. Il y a eu le premier mot, il aura le dernier mot. Et pour nous, en attendant que nous nous retrouvions, bien sûr, en sa présence, nous allons nous pencher, nous nourrir de la parole de Dieu. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais aussi quand même vous transmettre les salutations du pasteur Erwan Pelletier, qui est le pasteur de Saint-Gaudens, l'église à laquelle je me suis rattaché. Donc, il vous transmettent, lui et son épouse, ses salutations. Et puis, donc, Jérémy et Stéphanie, que vous connaissez, qui m'ont transmis de vous transmettre aussi les salutations de leur part. Ils vont bien. Ma femme n'est pas là parce qu'elle est donc à Saint-Gaudens. Et puis ce matin, l'Église va dire au revoir à Jérémy et Stéphanie. Ce que vous allez faire le 30 juin, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Pas de chance pour moi, j'y suis pas. Mais c'est pas grave ça, hein. Je le reverrai un jour, le fils. On n'est pas bien loin, puisqu'il va s'établir sur l'église de Muret, dont il est déjà le pasteur, mais il va définitivement, c'est fait, c'est coupé avec Saint-Gaudens pour rester, se donner à fond, et pour Muret. Donc, que Dieu soit glorifié. Vous êtes en forme? Ça va? Dieu est bon. Alors, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu. On va aller dans l'évangile de Jean, s'il vous plaît. L'évangile de Jean. Dans le chapitre 1er, on va partager ensemble la parole du Seigneur. C'est bon de lire la Bible. C'est bon d'apprendre les versets bibliques. Mais c'est meilleur de la mettre en pratique. On en connaît tous ses effets et la grâce qu'elle nous apporte et la bénédiction qu'elle engendre dans nos vies. En tous les cas, pour tous ceux qui l'entendent, mais qui ajoutent foi à celle-ci, elle porte du fruit dans nos vies. Alors, dans Jean, l'évangile de Jean, ça se trouve, comme j'ai l'habitude de dire, entre l'Apocalypse, la Genèse et l'Apocalypse, plutôt. Voilà. Évangile de Jean. J'arrive, hein. Voilà. Évangile de Jean, chapitre 1. On va relire, bien sûr, ce fameux récit que l'on connaît, qui est aussi en écho avec le premier chapitre du livre de la Genèse, au commencement. Parce qu'il y a eu un commencement, ça fait une révolution quand on l'a compris, parmi les scientifiques. Ça a fait des dégâts dans certains qui croyaient qu'en effet que le monde n'a pas été fait tout seul. Bon, mais un jour on a reconnu enfin qu'il y a eu un commencement et que commencement de toute chose, ça c'est pas reconnu le Dieu de la Bible, mais on reconnaît qu'il y a un Dieu qui a créé des lois. Parce qu'on ne peut pas avoir une création aussi bien faite s'il n'y a pas quelqu'un qui a mis des lois. Et la création n'est pas le fruit du hasard ni du Big Bang. C'est issu de la volonté de Dieu dans un plan préconçu qui avait été vu de Dieu, en effet. Puis quand les choses se sont faites, ça s'est réalisé tel qu'il l'avait pensé. Il faut le faire quand même, hein. Tout ce que Dieu avait pensé, tout ce que Dieu a prévu, il le voit se faire, se réaliser devant lui au son de sa parole. Il dit et la chose arrive. Quand il arrive au septième jour, il dira que cela était très beau. Contrairement aux autres jours avant où c'était bon, simplement. Mais là, la création est complète, c'est total. Il dit, c'est très bon. Dieu est pas sentimental, mais il est ému. Il a des sentiments, il a une expression. C'est une personne comme nous qui possède des sentiments, des émotions. Et quand il voit l'ensemble de la création, il dit, c'est très bon. Moi, je me mets à sa place. Hein. Pas vous ? Vous avez un projet, il y a des étapes. Quand vous arrivez à la fin, vous admirez le tableau. Ah, c'est super, je ne suis pas si mauvais que ça, finalement. C'est exactement ce que je pensais. Il n'y a pas un point de plus, pas une virgule de moins. Tout est conforme à ce qu'il a pensé. Il faut le faire quand même. Hein. C'est Dieu. Il n'y en a qu'un. Création des cieux et de la terre. Au commencement, Dieu a créé toutes choses. Que Dieu soit béni. Vous y êtes à l'évangile de Jean ? Au chapitre 1er ? Vous y êtes, moi aussi. Vous voulez bien qu'avant qu'on lise, on prie encore ? Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Quelle grâce et quel privilège d'être ici ce matin. C'est un honneur que tu nous fais. C'est vrai. Parce que quand on pense à ce qu'on était et ce qu'on est devenu, alors Seigneur, c'est grâce à toi. C'est grâce à ta parole, à ta voix qui a retenti. Nous te bénissons parce qu'elle continue son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Et si on est ici, c'est encore l'effet de ta grâce. Et nous voulons non pas regarder à nous-mêmes, mais nous voulons regarder à toi ce matin. Nous voulons lever les yeux vers le ciel, plus haut que les montagnes, parce que le secours, il nous vient de toi. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse, et devant lequel on n'a jamais honte de se confier en toi, jamais déçu de la part de Dieu. Ah, quel bonheur de te connaître. Merci de bénir cette Église. Merci pour mes sœurs, pour mes frères. Merci pour ton peuple, rassemblé ce matin dans ce lieu. On est béni de toi, on est heureux d'être ici. Seigneur, et nous croyons encore qu'en levant toujours nos yeux vers toi, le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous. Le parfait est devant nous. Et nous te disons merci de ce que tu nous as introduit dans tes plans, dans tes projets. Nous sommes et nous faisons partie de ta nouvelle création. Merci pour ce privilège, Père, au nom de Jésus. Que cette parole nous fasse du bien. Tu oins ton serviteur, mais tu oins aussi ton corps qui est l'Église. Et par ce même esprit, aide-nous à saisir les profondeurs de ta parole, de ta volonté, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons donc ces quelques versets ensemble. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint pour, comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Amen. Moi, j'arrête là la lecture, mais vous pouvez la continuer à la maison. Il n'y a pas de problème. Nous, on veut rester, en effet, dans ces quelques versets. Et il nous est bon de relire, en effet, que, encore une fois, par le moyen de la parole de Dieu, Dieu nous fait connaître que nous ne sommes pas sortis d'un chapeau, qu'on n'est pas issu du singe et ni du poisson, mais qu'on est vraiment une créature créée de Dieu, par Dieu, voulue de Dieu, aimée de Dieu même quand on est méchant avec lui. Dieu nous aime quand même. Et quoi plus normal, parce qu'au-delà des apparences, il y a quand même un sentiment intérieur dans le cœur de Dieu, c'est que nous sommes issus de ses mains. Donc, même qu'on soit méchant, il n'est pas insensible à notre avenir. Tout comme pour ceux qui ont des enfants, il y a des enfants qui se tiennent bien, il y en a d'autres, c'est moins bien, mais on les aime quand même. Même si parfois ils vous renient, même si parfois ils vous marchent dessus, et même si parfois ils n'ont aucune considération pour ce qu'on fait pour eux, mais quelque part ça fait mal. Pourquoi ? Mais parce que ce sont nos enfants. On dit toujours, quand on est bébé, on marche sur les pieds des parents. Et quand ils sont grands, ils marchent sur le cœur des parents. De la même manière, Dieu n'est pas insensible, en effet, à l'avenir de chacun d'entre nous. Il se sent concerné parce que si nous sommes ici-bas, c'est parce qu'il l'a bien voulu. Et Dieu n'est pas celui qui abandonne sa créature. Dieu veille sur sa création, Dieu veille sur chacun de nous. Et la volonté suprême de Dieu, c'est que tous nous parvenions à la connaissance de la repentance et de la vérité. Et pour ce faire, il ne va pas employer la force, ni musculaire, ni intellectuelle, ni au niveau de l'armée, mais la force de Dieu, c'est son amour. Et c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Dieu ne se lasse pas de nous interpeller. Même dans les pires moments, les plus tragiques, Dieu nous interpelle. Afin de faire comprendre à chacun des hommes que nous avons besoin de lui. Que notre vie est une poussière, que notre vie est une étincelle. Elle ne tient pas à grand-chose. Mais malgré cela, Dieu veut nous faire comprendre qu'il nous aime. D'un amour éternel. Et croyez-moi, on a du mal à tenir devant la révélation de l'amour de Dieu. On fond comme la cire au soleil, mais on s'ouvre aussi comme une fleur au soleil. Que Dieu soit béni. Tout être humain, en effet, qui vient à la rencontre du Seigneur ou que le Seigneur se révèle à lui, il découvre son identité véritable. On apprend à le connaître, mais on apprend à se connaître, nous aussi. Et il nous garde, en effet, de l'orgueil humain, de croire qu'on est des dieux, mais qu'on n'est que de simples humains sur la terre et que sans lui, on n'est rien. Mais ça ne nous écrase pas pour autant, hein. Au contraire, ça augmente en nous l'amour pour Dieu. Parce que quand c'est rien, on le méprise. Mais le rien, Dieu ne le méprise pas. Il veut que chacun d'entre nous, nous puissions parvenir à la connaissance de Dieu, à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Jésus. Et si ce matin tu es dans ce lieu, en effet, c'est encore un privilège que Dieu te fait. C'est une grâce, et c'est le fruit du travail de l'amour de Dieu que nous ayons ce lieu pour que nous puissions nous rassembler et entendre dans ce lieu la parole de Dieu, la voix de Dieu qui nous répète sans cesse, en effet, qu'il nous aime d'un amour éternel. J'aime mon Jésus, comment ne pas l'aimer ? Mais comment ne pas en parler, puisqu'on l'aime. Il nous aime. Il est à moi, je suis à lui. Quand on aime quelqu'un, on aime bien en parler. Hein? Ça a de la valeur. Nous, on aime Jésus. Que Dieu soit glorifié. Dans ce texte qu'on vient de lire ensemble, en effet, j'aimerais faire jaillir de ces quelques versets, quelques paroles, en effet, ce thème qui est très important pour nous, la vie éternelle. La vie éternelle. Bien que ce monde dans lequel nous vivons rejette Dieu, il n'en est pas moins que dans le cœur de l'homme, l'homme cherche à vivre éternellement. On essaye de trouver des moyens, en effet, pour que, même si on meurt, on ne sait jamais si un jour, on a un moyen de ressusciter, je vais me mettre dans une cellule, dans un truc, en effet, pour me conserver jusqu'à ce qu'on ait trouvé le moyen de ressusciter. Vous voyez, dans la vie de l'homme, en effet, il n'y a rien à faire. Il y a cette pensée de l'éternité. L'homme pense qu'un jour, il va vaincre la mort. Folie. Folie. La vie éternelle, elle vient de Dieu. Et jusqu'à preuve du contraire, vous le savez comme moi, tout passe, tout lasse et tout casse. Même les choses les meilleures. Quelquefois, ça pourrait nous faire peur. Un pasteur se regardait dans la glace le matin pour se préparer au culte. Aller à l'église et quand il se regarde à la glace, oh, le miroir lui reflète son visage. Et il se regarde de plus près, dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai vieilli. Oh, j'ai pris des rides. Oh, j'ai perdu des cheveux. Oh là là, et le pauvre, il était un peu déçu. Et puis, bon, il continue, il va à l'église et à l'église, il y avait toujours une grand-mère qui était la première au culte. Quand il rentre dans l'église, il va la voir et dit « Oh mamie, oh là là, qu'est-ce qu'on a vieilli, hein ?» Et ceci, je me suis regardé ce matin dans la glace et tout. Et, oh là là, qu'est-ce que j'ai perdu, comment j'étais, comment je suis devenu. Elle dit, mais, sœur, comment vous faites, vous, le matin? Oh, il dit, pasteur, il y a longtemps que je ne me regarde plus dans la glace. Elle dit, il est tout le temps en train de me dire, t'as vieilli, t'es moche, t'es plein de rides. Elle dit, je préfère me regarder dans le miroir de la Bible qui me dit, tu es belle, tu es ma bien-aimée, tu es ma parfaite, je t'aime. C'est réjouissant, qu'est-ce que vous en pensez? Finalement, quand on se regarde dans le miroir de Dieu, qui est miraculeux, qui lui ne nous reflète pas simplement l'image, mais nous montre l'intérieur. En effet, et nous rappelle sans cesse, en effet, l'immensité de l'amour de Dieu. Ce qui fait qu'avec Dieu, on ne vieillit pas. On se bonifie. Amen. On se bonifie. Il y a comme un renouvellement, même si l'être extérieur se détériore, en effet, avec le temps. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour par la connaissance, dira l'apôtre Paul. Que Dieu soit glorifié. Un jour viendra, vous inquiétez pas, hein. Cette vieille tente va disparaître, elle ira en terre, mais elle laissera jaillir la vie. La mort a perdu son pouvoir. Elle a trouvé plus forte qu'elle. Elle a trouvé la vie. Alléluia. Un jour, une personne noble, qui ne croyait pas dans la résurrection, c'est à charger, en effet, de tous ceux qui allaient se charger le jour de ses obsèques, de faire que personne ne vient enlever la pierre tombale pour la faire sortir. Elle ne croyait pas dans le pouvoir de la résurrection. Elle ne croyait pas, en effet, de ce que nous, on disait dans la résurrection. Alors, quand elle est décédée, parce que c'est arrivé, c'est le rendez-vous de tous les vivants, elle s'est arrangée de dire, attendez, quand vous allez me mettre la pierre tombale, vous la scellez, vous l'attachez bien, faites tout ce qu'il faut, parce que moi, je ne crois pas dans la résurrection. Seulement, est arrivé un jour que, quand elle est partie, elle est morte, et les obsèques ont été faits, il faisait gris, il y avait du vent, il y avait tout ce que vous voulez. Et puis, quand la cérémonie s'est finie, tac, la pierre tombale a été scellée, elle a été surveillée. Et puis, un jour, celui qui était chargé d'entretenir la pierre tombale a vu quelque chose qui attirait son regard sur la pierre tombale. Et il s'est rapproché comme ça, il a regardé, et il a vu qu'il y avait une fissure sur la pierre tombale. Qu'est-ce que c'est? Alors il s'approche, il regarde, puis il voit qu'il y a une plante qui est sortie. Eh oui, la mort a été vaincue. La vie est plus puissante. Vous m'entendez? La vie... J'aimerais vous donner un petit encouragement. Je crois que Dieu va remplir ce lieu d'âmes nouvelles. J'ai un sentiment dans mon cœur, parce que Dieu fait tout à merveille. Et Dieu m'a rappelé quelque chose que j'ai appris de la nature. Vous savez ce que c'est qu'une étoile de mer? Ça a combien de branches? 5, d'accord? Je prends un couteau, je la coupe en deux. Combien il y en a? Il y a des équilibres, hein? 3 d'un côté, 2 de l'autre. À moins que je fasse bien les choses. Mais vous savez quoi? Quand vous coupez une étoile de mer en deux, il y en a 2. Elle ne meurt pas, elle se reconstitue. Coupez un ver de terre en deux, lequel reste vivant? Les deux. Et moi, je crois en effet que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu de la multiplication. Le diable, c'est le Dieu de la division, mais Dieu, c'est le Dieu de la multiplication et de l'addition. Quoi qu'on fasse à l'Église, rien ne prévendra contre l'Église. Dieu en prend soin et Dieu fait grandir. C'est notre défi, on y croit de tout notre cœur. Nous avons le Dieu de la vie éternelle, que Dieu soit glorifié. Dans cet évangile de Jean, bien évidemment, il y a des mots-clés. Il y a des mots-clés. Vous savez, dans des épîtres, dans des livres de la Bible, en effet, il y a des mots-clés, il y a des thèmes qui sont abordés et qui sont, en effet, enseignés. Et là, dans cet évangile de Jean, les mots-clés que nous avons, c'est le mot « foi ». Est-ce que vous avez la foi? Moi, je pense que vous êtes timide. Alors, comme je l'ai entendu, quelqu'un qui a élevé sa voix timidement, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force et d'amour. Si je comprends bien, c'est toi. Vous voyez, elle n'a rien dit, mais j'ai compris. Hein, le sourire étant venu, mais c'est beau. Mais on a fait des déclarations ce matin dans nos louanges. Il faut que l'on croie ce qu'on croit. J'ai la foi. Est-ce que vous avez la foi? La foi ne dépend pas du beau temps, du soleil, de la pluie, tout ça. La foi ne dépend que de Dieu. Mais comme Dieu ne varie jamais, donc la foi ne varie pas. Ce qui était valable hier, c'est valable aujourd'hui, c'est valable pour demain. Elle est intemporelle, la foi. Elle nous permet de traverser les océans tumultueux. Elle nous permet de triompher des épreuves. Elle nous permet d'expérimenter que notre Dieu n'est pas Dieu que dans la vallée ou sur la montagne, mais que c'est le même dans les deux situations et que nous pouvons par la foi faire des expériences extraordinaires. Et ce que Dieu nous a donné, c'est la foi. Et la foi triomphe des épreuves du monde. Finalement, en Jésus-Christ, tu ne peux être que vainqueur. Je le crois. Pourquoi ? Pas parce que je le ressens, mais parce que la foi que Dieu m'a donnée est issue de la parole de Dieu et que la parole de Dieu nourrit ma foi. Et ce qui est qu'il y a un lien très étroit entre la parole et la foi. N'avons-nous pas nous dit, Matthieu 23 et des poussières, verset 35, je crois, le ciel et la terre passeront, mais la parole demeure. Et tous ceux qui s'appuient sur la parole, c'est pareil, ils ne passent pas. On a voulu écraser, faire taire les croyants, mais plus on a marché dessus, plus ils sont multipliés. Rien ne prévaudra contre l'Église. Dieu multiplie. Tant que tu as un, tu en as 10 qui se lèvent. C'est comme ça, c'est étrange, mais il y a une puissance de vie que Dieu nous a donnée. Et donc, dans ce livre, et dans cet évangile de Jean, le mot « foi » revient souvent. Amen. La foi. Nous, on a quelque chose quand même de particulier qui ne se vend pas dans le commerce. Qui ne se retrouve pas, en effet, avec un diplôme de bonne conduite. C'est le don de Dieu. C'est la foi. C'est le don de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Qui aurait pu croire qu'avec un petit peu de foi, on pourrait croire en toute chose ? Alors que nous essayons d'élaborer des choses assez compliquées pour essayer d'avoir le mot. Mais nous, avec la foi, on a compris plein de choses. On n'a pas été à l'école polytechnique pour avoir un cerveau à 3 étages avec un ascenseur rapide dedans. Mais ce qu'on a reçu, c'est la foi qui, elle, nous transporte d'en bas vers le haut. Sans passer par une fusée avec des réactions, des trucs, pour nous propulser. Non, la foi. Seulement la foi nous permet de passer d'une situation à une autre situation, d'être sous, en effet, les nuages et de passer sur les nuages, au-dessus des nuages. Et ça, en un instant, au lieu dans lequel tu te trouves. En un instant, tu peux passer du terrien petit qu'on est à l'enfant de Dieu qui est au-dessus de tout. Que Dieu soit glorifié. Au lieu de regarder la tête basse, ou du moins la tête haute, parce que les choses nous submergent, nous, on peut les regarder par le moyen de la foi. Finalement, la foi est plus grande que mon épreuve. Parce que je suis en haut. Et je ne la regarde pas comme ça, je la regarde comme ça. Et je la domine. Que Dieu soit glorifié. En tous les cas, c'est la promesse que Dieu nous a faite. C'est par la foi qu'on triomphe des épreuves du monde, parce que la foi te transporte d'en bas vers le haut. Nous sommes capables de dire que nous avons été ressuscités en Jésus-Christ. Nous avons été élevés, assis à la droite de Dieu, de la majesté divine. Mais il faut y rester là-haut. Et pour y rester, on a la foi. Alors que parfois on voudrait nous attirer vers le bas, la foi résiste. Et elle reste où elle est, elle demeure. Et nous permet de triompher, que Dieu soit glorifié. Non seulement il y a le mot foi, mais il y a aussi le mot vie éternelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. S'il y avait des gens sur la terre, et si on avait un moyen pour donner ou le vendre, le produit qui permettrait d'avoir la vie éternelle, on serait richissime. Je suis certain que vous auriez une quantité de personnes qui feraient la queue, en effet, pour dire « moi, je la veux, la vie éternelle ». En premier, vous aurez d'abord les riches, qui ne vous donneront pas l'argent, à vous, les pauvres. Mais nous, on la veut, on va payer. Et parfois, même si on n'a pas, on essaiera de l'avoir. La vie éternelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la richesse que nous possédons. Tu ne l'as même pas reçu de ton père ni de ta mère, ni de ton grand-père et ta arrière-grand-mère. Elle ne vient pas des hommes. Elle ne vient pas de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang. Elle vient de Dieu, la vie éternelle. Que Dieu soit glorifié. Il y a aussi ce verset clé dans Jean 20, 31, qui dit « Mais ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » La vie en son nom. Que Dieu soit glorifié. Selon Jean, dans sa première épître, en effet, avant que Jésus soit, il nous fait savoir qu'il était. Jésus lui-même l'a dit, quand il dira au Père dans Jean 17, « En effet, rends-moi la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. » Jésus a eu une préexistence, non pas Jésus, mais la parole. Il s'appelait la parole. La parole faite chair, la parole vivante, la parole par laquelle, en effet, tout subsiste. La parole par le moyen duquel, en effet, tout est venu à l'existence. La puissance de la parole. Vous croyez que 2 Timothée 3,16 ? Oui, j'ai entendu, quelqu'un l'a murmuré là. Dites-le. Hein. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, enseigner dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre pour le service. Que Dieu soit glorifié. Est-ce que vous le croyez ça ? Tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré de Dieu. Donc, c'est vrai. Mais le dire et le dire, la référence, c'est bien, mais la vivre, c'est mieux. Dans mon quotidien, dans notre vie personnelle, les uns et les autres. Mais comment pourrais-je vivre sans m'appuyer sur la parole de Dieu ? N'y a-t-elle qui est sûre et solide et qui me permet de marcher sur les marécages, sur les moments difficiles, sur les eaux tumultueuses ? Je peux marcher sur l'eau. Pourquoi ? Parce que la parole est un lieu sûr, un terrain sûr, dur, ferme, qui ne branle pas. Sur ta parole, je vais enjamber la barque. Sur ta parole, je vais marcher sur les difficultés. Je me lâche. Je ne cherche pas à essayer de m'agripper à tout ce qu'il y a. Il n'y a rien. Il n'y a que ta parole. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Il renouvelle ses forces pendant la marche. Et Dieu lui donne la force du buffle. Un buffle. Vous avez vu un buffle ? Un buffle. Ouais, tu peux être maigre comme un rico, mais avoir la force du buffle. Que Dieu soit glorifié. Parce que c'est lui qui rend ces choses dans nos vies véritables. Donc Jean, dans son épître, avant que Jésus soit, il fera savoir qu'il s'appelait la parole faite chair, cette créature de Dieu qui a été faite, Dieu a donné à Jésus, à la parole, un corps, une tente, un vase comme le nôtre, pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, mais aussi quel est Dieu, qui est Dieu, connaître son amour, mais aussi la qualité de vie dont Dieu vit, la vie éternelle. Dieu a toujours existé, de toute éternité. Dieu n'est pas l'œuvre d'une création humaine, ni le fruit de l'imagination des hommes, car les hommes, même aujourd'hui, sont incapables d'imaginer Dieu. C'est au-delà de notre pouvoir. C'est impossible, parce qu'on n'a jamais vu. Et c'est difficile de s'imaginer Dieu quand on ne l'a jamais vu. On a imaginé Jésus parce qu'il s'est fait chair, parce qu'il était homme, mais Dieu, personne ne l'a vu, et personne ne peut le voir et vivre. C'est comme si vous vouliez essayer de regarder le soleil à son zénith. Essayez de le faire. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous voyez plus rien. Or, le but de Dieu, ce n'est pas qu'on soit aveugle. Il nous rend la vue. Donc, sa lumière est particulière. Que Dieu soit, c'est la révélation de la divinité. Que Dieu soit glorifié. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1 et 4... Parlant de la vie éternelle, il dira ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Amen. Vous voyez la suite, la logique, la continuité dans l'évangile de Jean, mais aussi par ce même auteur, dans son épître, il veut nous installer dans le royaume de Dieu et nous faire connaître d'une manière intime, particulière, non plus de l'extérieur, mais de l'intérieur, en effet, que nous discernions, en effet, cette vie éternelle. Et les apôtres, qui étaient des témoins oculaires, l'ont vu. Il y a donc des témoins, ils l'ont vu. Moi, je pense que la plupart d'entre nous, on aurait voulu voir Jésus, non ? Le connaître de son vivant quand il est né dans les temples, puis après il a grandi, comme tous les hommes, comme tout à chacun. Et de voir que ce petit qui est né dans un l'humble foyer de charpentier, ouais, ben c'était le Fils de Dieu, c'était le roi des rois, c'était le Seigneur des seigneurs qui est venu dans une attitude à ne pas frapper les regards. Il est venu dans une apparence qui n'avait rien pour nous plaire. Et cependant, derrière, il y avait un grand Dieu. Il y avait la divinité, la puissance, la vie éternelle. Non pas simplement quand vous allez mourir, on va vous faire l'onction, l'extrême onction, mais la vie éternelle dans le présent. La qualité de vie dont Dieu vit lui-même. La vie que nous avons reçue, c'est la vie dont Dieu vit lui-même. T'as compris ça? Vous avez compris? Excusez-moi. Vous, tu, nous. Dis à ton frère, à ta sœur, la vie que tu as, c'est la même vie qui est en Dieu. Alors, maintenant, je vais vous demander un exercice encore plus profond. Quand tu le dis, ne le dis pas simplement comme ça. Réfléchis à ce que tu dis. Tu te rends compte que la vie que tu as, que nous avons, c'est la vie dont Dieu vit lui-même. Dieu est éternel. L'éternité dans notre cœur. On a la vie éternelle. Vous avez du mal à le croire, hein? Quand on essaye de se comparer à Dieu, on dit « Oh là 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 là, je suis loin d'être ce qu'il est ». Oui, t'es loin, mais tu vas le devenir. Parce que quand même, dans le plan de Dieu et dans la parole de Dieu, le but de l'envoi de la parole de Dieu en Jésus-Christ, parole incarnée, c'est de faire de nous ce que Dieu il est. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance seulement au départ. Malheureusement, Dieu nous a créés, le péché nous a déformés, mais béni soit Dieu, Jésus est venu nous transformer et faire de nous des nouvelles créatures, créé à son image et à sa ressemblance. Maintenant, tu peux dire à ton frère et à ta sœur, tu peux dire, tu vas être comme Jésus. Tu vas être comme Jésus. Tu peux faire ce que tu veux, tu seras comme Jésus. Parce que ça, c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est extraordinaire. Nous, on essaye d'être parfait, on essaye d'être bien. Aïe, 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 on est plutôt déçus des fois. Puis tu tournes vers Dieu et dis, t'inquiète pas, ça va venir. Prends patience, sois patient. Mais t'inquiète pas, au jour où ça va arriver, tu vas être étonné. Parce qu'en un clin d'œil, tu vas être changé si tu es vivant. Et si on est mort, on va ressusciter, on va quitter la corruptibilité pour revêtir l'incorruptibilité. La faiblesse pour la force. Que Dieu soit béni. Cette vie éternelle que nous avons reçue, on va y rentrer pleinement quand on quittera cette terre. Parce que j'ai compris que des fois, beaucoup veulent aller au ciel, mais il n'y en a pas un qui veut mourir. Pourtant, il faut mourir pour aller au ciel. Il faut mourir pour vivre. Parce que tant que tu n'es pas mort, tu vas avoir des sérieux problèmes. On ne peut pas être deux au volant. Il n'y en a qu'un. C'est Jésus. Il conduit ma vie. Il dirige ma vie. Et j'écoute ce qu'il me dit. Par sa parole. Que Dieu soit glorifié. Nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons contemplé. Mais ce que nous avons vu toucher, c'est ce que nous vous disons. Et il parle de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi la vie? On ne l'a jamais vue. Mais on l'a vue en Jésus. Une qualité de vie dont Dieu vit lui-même dans un être humain qui s'est appelé Jésus, le Yeshua, le sauveur de l'humanité, de nos âmes. Notre frère aîné, notre représentant devant Dieu, celui qui intercède en faveur de tous ceux qui croient. Amen. Si tu ne crois pas, il ne peut pas intercéder pour toi. Il ne sert à rien, Jésus. Mais pour ceux qui croient, Jésus sert, même quand il n'est plus là, il est auprès du Père. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur, auprès du Père, et nous défend devant l'accusateur des frères qui est le diable. Vous avez connu, il y avait une émission qui disait « Le grand frère ». Ah, je ne sais pas comment ils appelaient, mais je vois que vous le regardiez, vous voyez. Oh, c'est fou, ça. Tac, c'est venu tout de suite, hein, Pascal. Je ne sais pas qui c'est, lui. Enfin bref, j'étais le grand frère. Moi, je suis issu d'une famille nombreuse. Vous savez, on est 11 frères et sœurs. Ça fait du monde quand même. Hein. Mais quand quelqu'un nous enquiquinait à l'école, on dit, tu vas voir si je t'amène mon grand frère. Vous voyez, ah, mon grand frère. Nous, on a Jésus. Moi, c'est mon grand frère. Je n'ai pas honte de dire, tu vas voir mon grand frère. Tu me touches, tu vas voir à qui tu vas faire. C'est la vérité. Je suis peut-être simple, mais je ne suis pas imbécile. Je sais à qui je crois. Et je sais que mon Rédempteur est vivant. Et si tu me touches, gare à toi. Parce qu'il est grand, mon frère. Hein. Et non seulement il est grand, mais il est fort. Hein. Il a une puissance, ce n'est pas dans les apparences. Parce que tu ne le vois pas, il n'est pas là. Il est auprès de mon Père qui est dans les cieux. Mais moi, je peux te garantir, de vivant que je suis sur la terre, tu me touches, tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Et je l'ai vu plus d'une fois, frères et sœurs, où je me suis retrouvé dans des situations difficiles. Et Dieu qui m'a appris à dire « Ne te venge pas, ne rends pas le mal pour le mal ». Croyez-moi, là, il faut une sacrée pression. Hein. Parce que la pression, elle y est, elle monte. Hein. Mais le Seigneur nous permet de décompresser en se confiant en lui. Et j'ai vu comment Dieu est capable de rétablir la justice quand celle-ci est bafouée, surtout concernant ses enfants. Il défend justice et vérité. Heureux l'homme qui se confie en lui. Et moi, je bénis Dieu dans tout conflit, dans toute difficulté. Mon recours, il est auprès de lui. Et au lieu d'aller en parler partout, j'en parle à mon Père qui est dans les cieux et à mon Jésus qui est avec moi tous les jours. Et on fait des expériences inoubliables qui vous marquent à vie comme une tache d'huile sur la moquette. Que Dieu soit béni. Alors oui, frères et sœurs, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans sa parole, qui croient en lui, elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Rendez compte, ce n'est pas donné à tout le monde, ça. Nous, on a un pouvoir, selon d'autres traductions, c'est une autorité. Et c'est vrai qu'un enfant de Dieu a une autorité. C'est vrai que l'Église a une autorité. Elle est revêtue d'autorité. Elle est mandatée. Nous avons reçu de la part du Seigneur un pouvoir. Nous avons reçu une autorité. Et nous n'avons pas le droit de ne pas l'exercer. Nous laisser écraser par l'ennemi de nos âmes et pour tout ce qui voudrait s'élever contre nous et contre la connaissance de Dieu. À commencer par nos propres pensées, mais de les ramener captives à l'obéissance de la foi. À exercer cette autorité d'abord sur nous-mêmes, sur nos pensées, sur nos sentiments, sur notre être tout entier, afin que ce que nous croyons, que toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile. C'est pourquoi la Bible, elle fait partie de nous. On est inséparable de la parole de Dieu, car c'est par le pouvoir de la parole que j'existe. Et c'est encore par le pouvoir de la parole que je subsiste. Le jour où je lâche la parole, je ne crois plus, je finis mal. Je vais me friper, ça se dit ? Friper ? Je vais mourir comme un fruit que l'on détache de l'arbre, il va pourrir. Pas au premier instant, mais peu de temps après, on voit les effets de la mort. Tant que nous demeurons attachés à Christ, nous recevons la vie et la vie éternelle. Que Dieu soit glorifié. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est venu pour mourir sur la croix et ressusciter d'entre les morts par Dieu le Père, justifiant son Fils dans ce qu'il avait prévenu. Détruisez ce temple, moi en 3 jours je le relève. Et c'est Dieu, le Père, qui a justifié son Fils. Il l'a ressuscité. Il est vivant pour toujours. Que Dieu soit béni. Ainsi, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éternité dans nos cœurs, la vie éternelle, étant née de Dieu, nous avons la vie de Dieu en nous. Est-ce qu'il y a des jardiniers au milieu de nous ? Bon, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir, hein ? C'est pas compliqué. Hein ? Vous achetez au magasin, il y a des poches, il y a des graines, c'est marqué haricots verts, petits pois, tomates, tout ce que vous voulez. Puis on vous dit simplement, ben vous la prenez, vous la mettez en terre, vous l'arrosez, et vous allez avoir des tomates, des haricots verts et des petits pois et tout le reste. C'est pas compliqué, oui ou non ? Bon, c'est vrai, il faut l'acheter. Il faut casser le sac, il faut le mettre en terre, il faut relever l'air. Eh oui, mais il faut un minimum quand même. Avec Dieu, il ne te demande pas grand-chose, il y croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence est jetée dans les cœurs. Si celle-ci trouve un accueil favorable, c'est-à-dire croire, que tu dormes, que tu vives, que tu te lèves, si tu crois dans la parole trouve un terrain favorable qui va lui permettre de porter du fruit à la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte ? C'est pas nous le pouvoir, c'est lui qui a donné le pouvoir à la semence. Et le pouvoir, l'autorité, elle est dans la parole de Dieu, et quand celle-ci est reçue par la foi, celui qui la reçoit possède une autorité. Je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Oh, vous êtes orgueilleux, frère. Non, je ne suis pas orgueilleux, je suis fier d'être enfant de Dieu. Je n'ai pas honte de mon Père. Mon Père dans la chair, j'en ai honte, ça oui, mais il n'est plus. Mais mon Père qui est dans les cieux, je ne peux pas avoir honte de lui. Il n'a fait aucun mal. Il ne fait rien de mal. En Jésus, c'est pareil. Il n'a jamais rien fait de mal et pourtant il a pris tous les maux de la terre. Il a été comme un paratonnerre. Il a absorbé tous nos péchés sur son corps, dans sa chair. pour les crucifier, pour le clouer à la croix du calvaire. Je ne peux pas avoir honte de Jésus. Moi, je n'ai pas honte. Dieu m'a repris un jour. Hein. Oh là là. Quand j'étais tout jeune converti, j'avais un peu honte de dire à mes copains, je suis chrétien, je vais à l'église le dimanche. Je crois dans la vie. Je n'osais pas, j'étais fier, orgueilleux, plus que maintenant. Ça veut dire moins qu'avant. Rassurez-vous, il faut être honnête, il y a toujours un peu de pharisiens chez nous. Hein. Pas des parisiens, mais des pharisiens. On a tous un peu d'orgueil au-dedans de nous. Et ne me dites pas non, parce qu'il suffit de vous marcher dessus, on va voir un peu. Si vous dites rien. Dans tous les cas, toujours est-il que j'ai appris de sa part, j'ai appris en effet de dépendre de lui, j'ai appris qu'il était celui qui nous défendait, il est celui qui est avec nous, que Dieu soit glorifié. On a la vie éternelle, je ne suis pas n'importe qui. Tu ne me prends pas T'inquiète pas, je ne vais pas utiliser les armes de la chair. Tu me donnes, je te rends la monnaie de la pièce. Ça, on peut tous le faire. Même converti, je peux le faire. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut le faire? Je suis chrétien, est-ce que tu me donnes une claque, je t'en donne deux? Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible, tout est possible. Certains diront, mais il y a même de la joie à donner, plutôt qu'à recevoir. Eh oui! Mais quand tu fais ça, c'est parce que tu n'as plus le pouvoir de retenir ta colère. Alors, comme tu as la méchanceté que tu as reçue, tu auras la méchanceté. Le mal par le mal. Puis on apprend que ça excite la colère davantage, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui n'y ait plus. Mais nous, on a appris en Jésus qu'on a des armes spirituelles qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Et on ramène nos pensées captives, nos émotions, le bouillonnement intérieur, et on le ramène au contrôle de la parole de Dieu, par le moyen de la foi et l'assistance du Saint-Esprit. Et on arrive déjà à vaincre de ce qui vous nous voudrez vaincre au-dedans de nous. Et de captif, on devient libre. Et on rend captif la captivité. En fin de compte, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Là où Adam a péché, Jésus a triomphé. Dans une chair semblable à la nôtre. Et le péché n'a pas triomphé. Le diable n'a pas triomphé. Il a rendu captif ce qui nous captivait. Et il a repris le pouvoir dans l'humanité que nous sommes. Et tous ceux qui croient en lui reçoivent par la foi une autorité et un pouvoir. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas, moi, j'étais rien. On m'a toujours dit, tu es un bon à rien, tu ne feras jamais rien de bon. Moi, j'ai fini par le croire. Ça m'a amené dans la culpabilité, ça m'a amené dans la complexité. Je ne parlais pas, je ne disais rien, parce qu'on me disait, si tu parles à quelqu'un, de toute façon, tu ne vas rien comprendre. Donc, je disais rien, bonjour, au revoir, terminé. Pas marrant, hein. Puis, depuis que je me suis tourné vers le Seigneur, que le Seigneur a su attirer et gagner mon cœur, j'ai appris que j'étais quelqu'un. Mais pas par la vertu de mon père et de ma mère, ni du sang, ni de la volonté, mais de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Non? Tout ce qui vient de Dieu est bon, hein? Même si tu as du mal à le croire. Quand on est enfant de Dieu, c'est bon. On est bon. Parce qu'un véritable enfant de Dieu né normalement, il est une grâce et une bénédiction sur la terre des hommes. Il est une grâce et une bénédiction dans le lieu de travail dans lequel il est. Il est un sujet de bénédiction à l'école dans laquelle il va. Il est un sujet de bénédiction dans le foyer dans lequel il est. C'est bon. Tout ce qui vient de Dieu est bon. L'Église, elle est bonne. C'est bon pour l'Église, pour le monde. Parce que tant que l'Église est sur terre, elle intercède en faveur du monde qu'il a haï. Mais le jour viendra où l'Église va partir. Il n'y aura plus rien qui va arrêter le monde. Mais ils vont s'entremanger les uns les autres. C'est ce que le monde est destiné pour tous ceux qui ne croient pas. Nous avons l'éternité dans notre cœur, frères et sœurs. Et je pense à ce texte de Romains 8 que je pense vous devez connaître. Et c'est un sursaut de l'apôtre Paul avant le chapitre 7. Vous allez me dire, c'est logique, 7, 8. Ouais. Mais le chapitre 7 était très important à comprendre avant qu'il entame le chapitre 8, d'abord par le premier verset qui dit « Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ça, c'est extraordinaire. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a envoyé son Fils à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à la nôtre, à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit que Dieu a béni. Ce que l'homme s'efforce de faire en voulant plaire à Dieu par le moyen de la loi, et dont il fait échec et mat, la Bible de Dieu dit que Jésus-Christ, lui, a accompli tout ce que la loi disait, étant né sous la loi, pour nous racheter et nous délivrer du pouvoir de la loi, chose impossible à accomplir pour chacun d'entre nous, même quand on en est converti. Mais qui pourtant, en Jésus-Christ, est la bonne nouvelle, c'est que pas besoin de le faire, c'est déjà fait. Donc pour plaire à Dieu, il ne faut pas avoir une conduite particulière parfaite pour croire que Dieu va s'intéresser à nous. Il va s'intéresser à nous parce que la loi et la justice que la loi réclame en chacun des hommes, en effet, elle est accomplie en Jésus. Donc, quand tu viens vers Dieu, par la foi en Jésus-Christ, les portes s'ouvrent. Tu aurais voulu passer par un autre moyen, et avant ça, clic, c'était fermé. Parce que nous, on n'est pas juifs, on n'est pas nés sous la loi de Moïse. Mais en Jésus-Christ, juifs et non-juifs, nous, nous sommes liés à la grâce que Dieu a faite à Abraham dans Genèse 12. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et nous, on fait partie de la descendance d'Abraham. Fils d'Abraham, selon la promesse, nous sommes ceux qui ont été greffés à l'olivier franc et nous sommes devenus, par cette greffe, bénéficiaires de cette vie pure et sainte qui est en Dieu. Ce qui fait que nous pouvons effectivement nous approcher de Dieu sans craindre sa colère. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience dans la plénitude de la foi. Et nous serons toujours bien reçus par le Père qui est dans les cieux, parce qu'on n'est plus des étrangers, on est fils de Dieu, fille de Dieu, citoyens des cieux en route vers le ciel. Ça ne vous fait pas plaisir hein, quand vous allez à, je sais pas, à l'assurance, à l'autre, désolé, c'est fermé. Déception. Je viens pour de l'aide, on ne peut pas vous dire. Mais quand on se tourne vers Dieu, on est rayonnant de joie, parce que ses bureaux sont toujours ouverts, il est toujours disposé, toujours disponible, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, du 1er janvier au 31 décembre. Vous pouvez venir n'importe quand, vous êtes les bienvenus. Et même avant que tu y ailles, tu sais déjà que tu vas être bien reçu, parce que je connais, hein, mon Dieu. Il est miséricordieux, il est bon, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Je sais aussi qu'il est juste. Si je ne le suis pas, je vais être corrigé. Mais je sais que sa correction, c'est pour que je participe à sa sainteté, selon l'Épître aux Hébreux. Vous avez vu l'esprit de vie qui est en Christ. Nous, on a l'esprit de vie. Non seulement on a la vie, mais on a l'esprit de vie. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si je t'offrais un cadeau, et qu'à partir du moment où ce cadeau est à toi, il te permet de faire tout ce que tu espères. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de le faire, c'est fait. La justice réclamée par la loi, elle est accomplie en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ce n'est plus une loi qu'on t'impose de l'extérieur sur des tables de pierre écrites par le doigt de Dieu, mais c'est une loi inscrite sur la table de sa chair de notre cœur. Ce n'est plus de l'extérieur, c'est de l'intérieur. Ce qui était impossible devient possible. Et nous ne luttons pas pour avoir, mais nous luttons pour conserver ce qu'on a déjà reçu. C'est pas pareil, hein? Parce que tant que tu ne l'as pas, tu n'es pas sûr. Mais nous, la foi, Hébreux 11, 1, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6, c'est dans le désordre. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et si ce matin, nous sommes reçus du Père qui est dans les cieux, dans ces lieux, et que Dieu nous fait grâce de participer à la sainteté, à la présence de Dieu par son esprit, c'est parce que la grâce de Dieu est intervenue dans nos vies. Elle s'est en effet glissée entre la loi et nous, le péché qui nous accuse, et parce que nous avons cru en Jésus, nous avons une libre accès, libre entrée dans le sanctuaire de Dieu pour être secourus dans tous nos besoins. C'est un esprit de Christ. L'esprit est en nous. Je sais que ce n'est pas facile de passer par des moments difficiles. Je sais que si je coupe, en effet, une étoile de mer en deux, il y a de la souffrance, mais il y a une reconstitution. Il y a une nouvelle création qui vient. Et comme au jour du commencement, alors qu'il y avait le tohu, bohu, meli, melo, un monde où on ne discernait rien, par le pouvoir de la parole, Dieu va faire jaillir une création. Et c'est vrai que la Bible dit que cette création que Dieu a faite va être détruite. Elle va se dissoudre, dira Pierre dans son épître. Tout va disparaître. Parce que la terre est en train de souffrir, tout comme nous souffrons tous, d'un monde venu méchant, mauvais, et qui gît sous la puissance du diable, selon Jean, dans son chapitre 5 de sa première épître. Mais, pendant que ça se détruit, il y a une nouvelle création qui est en train de se faire dans le monde entier. Le Saint-Esprit agit, et nous sommes les prémices de cette création. Contrairement, dans le livre de la Genèse, Dieu a d'abord créé la terre, les cieux, la mer et tout ce qu'elle renferme, et le sixième jour, l'homme. Là, il a fait les choses à l'envers. Il crée d'abord une nouvelle humanité. Nous, les chrétiens, toi, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Mais ce que tu dois devenir n'est pas encore, mais ça va venir. C'est garanti à vie. Cette terre se détruit, mais il y a le peuple de Dieu qui est la nouvelle Jérusalem, l'Église, les croyants que nous sommes. Et nous sommes les prémices, frères et sœurs. Et quand le monde disparaîtra, Dieu va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et qui c'est qui va l'habiter ? Non, les Martiens. Mais le monde croit qu'il y a des Martiens, ou des êtres, on cherche encore. Nous, il y a longtemps qu'on est revenus, on ne croit plus au Père Noël. Non ? Qui c'est qui va être sur cette nouvelle terre ? C'est Jésus et les croyants, l'Église, son épouse, pour ne jamais se quitter. Et il y a une différence entre le début et la fin. C'est qu'aujourd'hui, on essaye la justice. On l'exerce. Mais la Bible dit que quand il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la justice, elle habitera sur cette terre. C'est le nouveau cieux, c'est la nouvelle terre. Elle habitera. Pas besoin de la faire, elle habitera. Parce que c'est Christ et l'Église, nous qui allons régner, et qui allons vivre pour l'éternité ensemble, dans la présence de notre Dieu, que Dieu soit glorifié. Je vais terminer. C'est Jésus, donc je l'ai dit tout à l'heure, qu'il a rendu captifs ceux qui faisaient de nous des esclaves, le péché, qui a pris son quartier général dans votre chair, dans ma chair. Et comme tout esclave, on ne fait pas ce qu'on veut. Tu peux toujours essayer, tu peux toujours le vouloir. Un jour, tu vas voir, tu vas recommencer. C'est bizarre. Paul disait dans chapitre 7, quand je veux faire le bien, je fais le mal. Je fais le mal que je ne veux pas et je n'arrive pas à faire le bien que je veux. Je ne comprends pas. Il dit pourtant, avec mon esprit, je prends plaisir à la loi de l'Éternel parce qu'elle est bonne, elle est sainte, spirituelle, ça vient de Dieu. Mais quand je veux faire ce que Dieu me dit, je trouve qu'il y a une autre loi qui lutte contre mon entendement. Je veux, mais il y a quelque chose en moi qui dit non. J'arrive pas. C'est ça la réalité du pouvoir du péché dans notre vie. Tu veux, mais tu peux pas. C'est contrariant, ça, quand même. Non ? Je veux mettre une vie, je peux pas la mettre. Je veux enfoncer un clou, je peux pas le faire. Non ? Ou je sais pas, tu veux mettre un câble dans une prise, t'arrives pas. C'est contrariant. C'est... Ah, je veux, je peux pas le faire. Eh ouais, mais parce qu'en toi, il y a une puissance qui s'appelle le péché, qui fait de toi un esclave, parce que c'est le maître qui règne dans ta chair. Mais béni soit Dieu pour la bonne nouvelle qu'est l'Évangile. En Jésus-Christ, il y a une délivrance. Le Seigneur ouvre les portes des prisonniers, il fait tomber les fers des hommes et nous rend libres. Libres de quoi ? Mais pas libres de faire ce que tu veux, libres de faire ce que Dieu veut. Par le pouvoir et l'autorité qu'il nous a donné en chacun de nous. Car tous ceux qui croient ont ce pouvoir, cette autorité. Que Dieu soit béni. C'est pas dans les apparences, mais dans la foi. Tu peux être petit, rachitique, mais si tu es habité par la foi de Dieu, tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, et crois-moi, ton ennemi a intérêt à faire attention. Parce que Dieu est puissant et Dieu nous rend fort par sa grâce. Jésus nous délivre, en effet, la vérité qui est en Christ nous affranchit, nous rend réellement libres pour vivre en conformité à sa parole et à sa volonté. Que Dieu soit béni. La force est en Christ. La force est... On comprend Paul qui dit « Je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, et nous le savons glorifié. La force est en Christ. » Vous connaissez Jean 15 ? Qui c'est qui a dit oui ? Jean 15. « Je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Tout charmant qui est en moi va porter du fruit. Mais si on n'est pas en lui, on ne porte pas de fruit. Le vrai cep, c'est Jésus. Nous, on est les sarments. On n'est pas grand-chose, on ne fait rien avec du sarment. Tu ne fais même pas une cheville de bois. On le jette au feu. Ça alimente le feu. Mais Dieu, lui, il peut faire de nous des sarments, et ce qui donne la valeur au sarment, c'est le fait de demeurer en lui. Parce que tant que tu demeures attaché à Christ, tu reçois la sève, la vie, la puissance de vie, qui te fait donner un fruit qui n'est pas le tien, mais le fruit du cep. Galates 5, 19, qu'est-ce qu'il dit? C'est comme l'ordinateur. Bon, je vous ai fait une blague, là. C'était pour savoir s'il y avait des réponses. Galates 5, 19, c'est les œuvres de la chair. Elles sont évidentes. Les querelles, les divisions, les machins, tout ce que les jalousies. Mais 5, 22. Ah, oui, ça revient, hein. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, en dernier lieu, mais enfin bref, connaissez ces 9 fruits. Ce qui me fait dire, frère, dis à ton frère, à ta sœur, je ne suis pas jaloux de toi. Parce que ce que tu as reçu, est-ce que tu vas donner, ben je l'ai aussi. Et parfois, il y a tellement de différences entre nous. Et je vais prendre la plus grande, qui est plus évidente. Ma sœur est noire, moi je suis blanc. Et je vais aller vers quelqu'un, je dis, c'est ma sœur. Bon, c'est possible. Ouais, mais là, si t'es noir, noir, et lui, il est blanc, blanc, que ce soit café au lait ou... Ouais, mais en attendant, c'est ma sœur. Et je t'aime, ma sœur. Si j'étais raciste, je suis plus raciste. Si j'aimais pas certaines choses, ben c'est fini. Le Seigneur a enlevé les barrières raciales, sociales, toutes ces barrières, l'Évangile abat les barrières et fait de toutes les nations un peuple dont nous faisons partie. Et moi, ça me réjouit. Il y a de la couleur avec le Seigneur. C'est un artiste. Il fait des choses extraordinaires, que Dieu soit béni. Enfin, je peux quand vous citer des textes, et je peux même recommencer la réunion, si vous voulez. Et ce matin, je me disais, mais Seigneur, on ne s'arrêterait jamais. Seulement, comme on est sous le soleil, il y a l'heure. On est soumis au temps. Mais un jour viendra, même pas le temps, il va nous retenir. Et on ne se rendra même pas compte. On sera dans la présence de Dieu. Il n'y a qu'une chose, on sera tellement subjugué, omnibulé, ravi de voir Jésus, qu'on oubliera de manger, comme c'est déjà arrivé dans les évangiles. Parce qu'on sera, ah, c'est beau, il n'y a rien qui pourra nous apporter. Alors, frères et sœurs, il y a un verset clé dans une épître aux Galates, qui est un verset clé. Comment on peut être heureux tout en étant chrétien, et tout en étant chrétien passant par la souffrance, les douleurs, parce qu'on est enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment un secret, une formule magique, une sorte de sésame, ouvre-toi? Ou est-ce qu'il y a un principe de vie dont Dieu vit lui-même? Bien que Dieu soit au-dessus de tout, il est soumis à sa parole. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Dieu est soumis à sa parole. Oh. Et Paul va donner une déclaration extraordinaire. Il dit, comment tu peux être heureux dans ta vie chrétienne? Pose à ton frère, ta soeur, tu veux être heureux dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu veux avoir toujours cette joie présente dans ton cœur, même si parfois la vie est blessante? Elle te meurtrit. Mais est-ce que tu peux quand même avoir cette paix, cette joie intérieure? Demande s'il le veut. Est-ce que vous le voulez? Moi, je veux. Hein. Je dis pas haut. Levez la main, je dis haut les mains. Pas au nom de la loi, mais au nom de Christ. Et Paul dira un verset qu'il faut se rappeler par cœur. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et il dit, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est le verset clé, c'est la formule, pas magique, mais le principe de vie de la vie éternelle. Si tu es en Christ, et Christ en toi, la vie de Dieu est en toi. Et il procure à ta vie ce qui vient de Dieu, à tel point que tu ressembles à celui qui te l'a donné. Comme un couple qui sont mariés depuis des années, ils finissent par se ressembler et parler le même langage. C'est incroyable. Tu vois un quart d'heure, tu vois la femme, tu dis ça va, tu vois le mari après, il vient, et nanana, il te dit la même chose. C'est dingue ça. Pourtant, c'est pas concerté, hein. Et ils disent la même chose. Pourquoi ? Ils ont fini par devenir un. Avec le temps. Ils ont laissé de côté pour ne faire un. C'est extraordinaire. C'est l'œuvre de Dieu. Nous, on est des caractères, des personnalités avec un arrière-plan différent, des origines différentes. Mais on a le même Père, le même Seigneur, le même Esprit, la même foi, la même parole, la même espérance, le même baptême. Toutes les différences éclatent et on fait qu'un. Que Dieu soit béni. Et c'est une réalité parce que quand tu es dans l'épreuve, tout à coup, tous tes frères prient pour toi. Et toi, tu pries pour ton frère qui n'est pas bien. Tu dis, oh, quelle famille. Même pas ma famille dans la chair, elle le fait. Mais dans l'Église, je l'ai. Et là, tu fonds en larmes parce que tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que... Quel mérite on a ? Rien. C'est le résultat de l'amour de Dieu. En Christ, l'amour de Dieu abonde. La vie de Dieu nous transforme. Que Dieu soit glorifié. Moi, je resterai bien encore avec vous. Vous êtes sages. On prie le Seigneur. Notre Père céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu fais briller la lumière de ta face sur tes servantes et tes serviteurs, comme elle a brillé sur la face de ton Fils. Jusqu'à devenir la lumière parfaite qui illumine les cœurs des hommes. Et qu'à celle-ci, les ténèbres se dissipent, comme nous sommes aujourd'hui lumière du monde et le sel de la terre. Ce que tu étais, nous le devenons, par ta grâce, par ton œuvre, par l'action du Saint-Esprit. Je te rends grâce parce que par le pouvoir de ta parole, tu nous rends participants de ta nature divine. Alors que rien ne pouvait penser qu'on serait capable, toi, tu l'as fait. Et aujourd'hui, par la foi, nous croyons dans l'incroyable, dans l'impossible. Et ça, on te le doit qu'à toi. On ne peut plus être soumis aux lois, en effet, qui disent « c'est comme ça, ça ne sera pas autrement ». Oui, mais c'est mon Dieu qui aura le dernier mot. Si Dieu veut, ça se passera autrement. Parce que la foi ne dépend pas des temps et des circonstances, mais de celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre.